Le club de l'info, Florian Barbet.
Devenir prêtre est à coup sûr un choix de vie difficile et un choix qu'il faut faire parfois très jeune. Pour certains, les certitudes des premiers temps et la vocation suffisent à consolider une vie de sacerdoce, mais pour d'autres, les doutes s'installent et la sortie du ministère est alors un autre choix qu'il faut affronter. Un livre vient de sortir aux éditions Saint-Augustin, Prêtre et après. Un livre qui confronte les expériences de ceux qui sont restés et de ceux qui sont partis. Ce sont là des témoignages forts et qui mettent en relief des vies et des destins, mais aussi les défis des églises d'aujourd'hui et leurs difficultés parfois à se mettre en adéquation avec leur siècle. Car le constat est connu, les églises se vident et les vocations se raréfient. La question du célibat des prêtres revient de façon récurrente dans la réflexion catholique, celle de l'ordination des femmes aussi, ou celle des homosexuels, hommes et femmes. Le débat sur cette question est vif en ce moment à Bâle. Une initiative y a d'ailleurs été lancée hier. L'église peut-elle évoluer lorsqu'elle s'y résout? Le fait-elle contrainte et forcée ou sur la base d'une réflexion et d'une ouverture au monde? Assouplir la règle pour redonner vigueur au sacerdoce, c'est le débat du club ce soir. Et j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio Jean-Cyprien Picloou, ordonné prêtre à la fin des années 60. Il quitte les ordres après quelques années pour se marier. Il est aujourd'hui grand-père. Bonsoir.
Bonsoir.
Vincent Lafargue est prêtre à Monthey. Il a été ordonné il y a un an tout juste. Il occupe le poste de vicaire pour les paroisses de Monthey-Choey. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et puis Bruno Miquel est avec nous par téléphone, pasteur à Genève. Bonsoir.
Bonjour de Genève.
Voilà, bonjour de Genève. C'est presque l'Eurovision de la religion. Voilà. Jean-Cyprien Picloou, vous êtes l'un des, tout comme Bruno Miquel d'ailleurs, vous êtes un des auteurs de ce livre dont j'ai parlé, Prêtre et après, l'avenir des paroisses et de l'Eucharistie. Alors c'est la confrontation de divers témoignages, il y en a 13, sauf erreur, et ils concernent des prêtres qui officient, qui sont restés, et puis d'autres comme vous qui ont quitté la prêtrise après une expérience de vie tout simplement. Alors je vais vous demander, puisque vous allez être un petit peu le fil rouge de cette émission, quelle est votre histoire finalement?
Mais mon histoire est relativement simple. À la fin des études de théologie, je suis tombé amoureux de mon plein gré, mais sans le savoir. C'était en dernière année. Et puis l'idée que tout se calmerait m'a permis d'aller vers les ordinations, de faire comme j'appelle dans le livre ce saut de l'ange. Et
on peut expliquer peut-être saut de l'ange. Vous êtes alpiniste, hein, vous aimez beaucoup la montagne. Et le saut de l'ange, c'est vrai.
J'ai aussi fait l'aspirant guide au-dessus de Champé. Il y a une merveilleuse chaîne d'escalade, c'est les Écandilles. Et puis après, un rasoir, etc., il y a le saut de l'ange. C'est pas énorme, il y a un peu de vide à gauche, à droite, mais il faut sauter. Et puis, celui qui ne saute pas, il doit faire marche arrière, et c'est pas si simple. Mmh. Alors, c'est l'obligation de poursuivre. Donc, à la fin à 25 ans, j'ai fait ce saut de l'ange en toute bonne foi, et en me disant que tout allait se calmer, et après une année de réflexion à Zurich, à l'instigation de Monseigneur Adam, qui m'a dit « Non, vous n'allez pas si vite, vous allez d'abord une année pour réfléchir », je le remercie encore de cette ouverture, on a constaté qu'effectivement je n'étais pas fait pour être seul. Et puis, j'ai fait cordée avec une personne dont j'avais croisé le regard très, très furtivement. D'ailleurs, c'est très drôle, c'était à une première messe dans le Haut-Valais. Et puis, de là, s'est constituée une famille qui tient toujours 42 ans plus tard. Mmh.
Vous avez relevé, je ne suis pas fait pour être seul. Et vous relevez dans le témoignage que vous apportez dans ce livre, justement, la grande solitude, hein, le soir venu, la solitude de conversation du prêtre.
Alors c'est vrai, j'ai eu aussi bien dans la première paroisse ici en Valais que dans celle de Zurich, des contacts absolument fantastiques, d'une part avec les laïcs, d'autre part avec les confrères, mais il y a quand même une solitude presque ontologique. Et d'être tout seul le soir, sans possibilité de réfléchir ensemble, de faire un bout de chemin ensemble, ça me pesait. Puis Il n'était pas question à l'époque, c'était à peu près l'époque de la lampe à pétrole dans certains alpages ici.
On parle d'un temps.
Non, ça fait passer 40 ans, 45 ans. Il n'était pas question de vivre en cachette. Mmh. Le déni était absolument inacceptable.
Ça se posait, hein, j'imagine, oui. La cachette.
Je ne peux pas vous dire.
Vous n'êtes pas d'aller regarder sous les soutanes de vos collègues.
Non.
Bien. Vincent Lafargue, vous êtes prêtre. Vous avez 36 ans, si je puis le dire. Oui. Vous me l'avez confié tout à l'heure. Et vous êtes prêtre depuis un an. Vous venez de célébrer un anniversaire, d'ailleurs, hier.
Hier, oui.
Voilà. Donc, cette solitude du soir qu'évoque Jean-Cyprien Pitelou, vous la vivez?
Je crois qu'il touche là quelque chose de très, très important. J'ai beaucoup apprécié son témoignage dans le livre, dans ce sens-là aussi. Lorsque j'ai commencé mon chemin vers la prêtrise, lorsque j'ai frappé à la porte du séminaire, je suis allé trouver plusieurs amis prêtres. Et l'un d'eux m'a dit tout de suite, est-ce que tu aimes être seul? Parce que ça, ce sera capital dans ta vie de prêtre. Il se trouve que moi, j'aime être seul. Parfois, ça peut être vu comme un défaut. Je suis un peu un ours, des fois. Mais j'aime bien, moi, cette solitude du soir. Et je constate, en ayant discuté avec plusieurs des prêtres qui ont écrit dans ce livre, j'en connais plusieurs, je constate que ça a été un obstacle pour la plupart de ceux qui ont quitté cette solitude qui était difficilement supportée. Et je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour être mariés, d'autres pas, de la même manière qu'il y a des gens qui sont faits pour être seuls ou vivre seuls, et d'autres pas. Mmh. Voilà.
Bruno Miquel, il n'est pas question dans cette émission d'opposer hein, les sœurs du christianisme, de la chrétienté, mais vous vivez dans une religion, la religion réformée, dont l'un des créateurs, hein, Luther, qui était moine, voilà, il s'est marié très vite hein, après avoir quitté le sacerdoce.
Oui, alors pour l'Église réformée, la référence, c'est la Bible, et puis chaque fois que une question surgit, eh bien, que disent les Écritures? Et puis, quelle intelligence des Écritures nous avons? Alors, pour nous, le célibat n'a jamais été institué comme obligatoire pour servir, pour être au service du Seigneur. Et c'est pour cela que dans l'Église réformée, eh bien, vous avez cette liberté d'être célibataire ou marié, en sachant que eh bien, notre vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est-à-dire que moi je suis profondément convaincu que Dieu peut nous adresser non pas une vocation, mais plusieurs vocations dans le cheminement de notre vie.
Il ne faut pas choisir, ce sont vos mots hein, dans ce livre, entre Dieu et sa femme.
Non du tout.
Sa famille.
Comme je le dis dans le livre, la parole des Écritures, c'est « Je mets devant toi la mort et la vie, choisis la vie ». Et pour moi, la vie, elle est bien plus large des fois que nos choix. Et je crois que l'important, c'est de se sentir vivant. Et puis, c'est ça l'essentiel. Est-ce que je me sens vivant là où je suis, là où Dieu m'a placé? Alors, à chacun d'y répondre. Je ne peux pas répondre à la place de l'autre.
Alors là, ce sont évidemment des expériences personnelles et diverses, mais Vincent Lafargue, sans entrer dans un débat de droit canon dont je serais totalement incapable.
Pour moi aussi.
c'est rassurant. Ce célibat des prêtres, finalement. Alors, est-ce que c'est quelque chose que le catholicisme tire de la Bible, du Nouveau Testament? Est-ce que c'est une décision politique tardive? On parle du célibat depuis le 3e, 4e siècle, je pense, mais il a été définitivement imposé au Moyen-Âge. D'où ça vient, tout ça?
Alors, le livre « Prêtre et après » ne contient pas que des témoignages, il contient aussi...
Oui, toute une partie explicative.
Toute une partie explicative qui explique très très bien ça, qui explique très bien d'où vient le célibat. Hein. Donc, la première réponse, je dirais, à votre question est non, le célibat n'a pas toujours été imposé, encore que c'est un mot qui est impropre. Personnellement, je ne considère pas du tout que le célibat m'est imposé, je l'ai choisi, c'est un petit peu différent quand même. Mais le célibat n'a pas du tout...
Si vous ne l'aviez pas choisi, vous n'auriez pas le job. Hein. Pardon. Mais...
J'aurais pas été prêtre catholique romain. Voilà. J'aurais tout à fait pu être prêtre catholique oriental, par exemple. Ceux-là peuvent être mariés. Mmh. Donc, pas tous, hein, mais certains. J'aurais pu être pasteur, de fait, également. Donc voilà. Pour revenir au célibat, les prêtres n'ont pas toujours été obligés d'être célibataires. Auparavant, il y avait des prêtres qui pouvaient se marier, et au fond, ils avaient le choix. Plusieurs intervenants de ce livre, dont Michel Massy, qui est un confrère que j'aime beaucoup, qui lui est toujours prêtre, indiquent que leur préférence va au choix, en disant qu'on souhaite que l'ouverture de l'Église, c'est mon cas aussi, on souhaite que l'Église, un jour, donne le choix à ses prêtres. Moyennant quoi, personnellement, si le choix m'était donné, je ne changerais pas. Mais voilà, le célibat, dans les débuts de l'Église, n'était pas imposé. Il était imposé pour être évêque, en fait. Les évêques étaient pris chez les prêtres qui étaient restés célibataires. Mais ce que le livre explique aussi, c'est qu'il a toujours été considéré, alors, et ça dans les 2000 ans d'histoire de l'Église, comme une valeur importante, hein, une valeur très importante, et puis comme quelque chose qui... Michel Salamolard utilise le terme de précieux trésor. Je n'irai pas jusque-là parce que ce serait un peu dénigrer le précieux trésor du mariage, qui est un trésor tout aussi important. Mais en tout cas, comme une chose qui est belle, qui peut être très bien vécue.
Parler de précieux trésor, je vais détourner ces propos. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'à un moment donné, le célibat a été imposé pour que les biens restent dans les...
Oui, ça je pense que c'est tout à fait exact. Ça n'est certainement pas la seule raison, mais à l'époque où le célibat a été imposé, c'était une raison déterminante, certainement.
Mmh. Et même plus tard. Dans le Valais...
Approchez-vous, voilà.
Dans le Valais, il y a une histoire assez curieuse. C'est que nous avons dans le Haut-Valais Rarogne occidentale et Rarogne orientale. Pourquoi ? Pour l'héritage de Mathieu Schindre. C'est pas si vieux.
Quand même, Mathieu Schindre.
C'est pas tout. Mais c'est pas beaucoup.
Ouais. Bruno Michel, est-ce que j'ai indiqué que Luther avait franchi ce pas du mariage en quittant le catholicisme, en faisant sortir une partie de la chrétienté du dogme de Rome. Est-ce que on peut, en étant un peu provocateur, imaginer qu'un des plus grands bouleversements de la chrétienté est peut-être lié un peu à cette question de célibat, ou est-ce que je caricature ?
Non, moi je crois que le grand bouleversement du XVIe siècle, c'était surtout le retour aux Écritures. Et dans les Écritures, ce qu'elles contiennent, ce qu'elles disent, et puis vers quoi elles nous invitent, attendre. Donc c'est pas le mariage ou la remise en question du célibat, mais c'est un retour aux Écritures, puis peut-être une redécouverte de la foi et du salut, qui est bien plus... Le salut est donné non pas parce qu'on fait, mais parce qu'on est, parce qu'on est des personnes qui accueillons le salut, et pas parce qu'on fait ceci ou cela.
Je vous concède que c'était un raccourci un petit peu journalistique, mais j'aurais bien aimé que vous me disiez oui quand même.
Non. Moi, je crois. Et puis avant la réforme, il y a eu bien des réformateurs dans les catholiques.
Ouais,
il faut jamais l'oublier, qui ont tenté et qui l'ont fait. Hein, ce retour aux Écritures, ce retour à la grâce, etc. C'est pas Luther, je dirais, n'a rien vraiment inventé. Il y a bien des moines, des prêtres et des évêques qui ont réformé tout au long des siècles. Mais c'est pas la question du célibat.
Jean-Séprien Pitelou, on va peut-être revenir à votre expérience. Il y a ce moment où on doit quitter quelque chose qui a un rapport avec la foi, avec un engagement très fort. Hein, j'imagine quand vous l'avez pris. Quel est le tourment qui se met en place là ? Ça doit être très difficile, j'imagine, à vivre.
Alors,
de façon personnelle, hein, même pas par rapport à la société. Mais...
Alors, il est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce qu'on devient parjure ? Est-ce qu'on a bédé ? Et puis, pour finir, c'est la vérité personnelle qui s'impose, hein, la vérité intime sur laquelle on ne peut pas marcher. C'est impossible. Et ça fait pile 42 ans à la Pentecôte que je suis rentré dans le rang. Il y avait la possibilité soit de tout quitter, certains sont partis en pétard parce que...
Vous êtes sorti du rang. Vous êtes rentré, d'accord. Donc ça fait 40 ans que vous en êtes sorti.
Dans le livre, il est rentré.
D'accord.
J'étais un officiel de l'Église, je suis rentré dans le rang de l'Église.
D'accord.
En ce sens-là.
Vous avez perdu votre
parce
grade.
Parce que le lendemain de la Pentecôte, où ma paroisse de Zurich a été informée, eh bien, j'ai reçu ma lettre, rentre dans le rang. Mmh. C'est une manière polie de dire les choses.
Alors, après, eh bien, il y a évidemment, je l'ai dit, toute la tempête spirituelle, cérébrale qu'il doit y avoir au fond de vous-même, mais il y a aussi le fait de se retrouver dans la vie civile, si je puis dire, et puis de devoir réinventer une vie.
Le mot est excellent. Il s'agit de se retrouver absolument tout nu, parce qu'on sort avec des données de philosophie, de théologie, de Bible, etc. Mais je vous assure que dans la vie concrète de tous les jours, c'est pas très utile. Même si, 40 ans plus tard, j'y vois bien sûr un immense apport que je qualifierais d'humain. Alors, c'est pour ça que là, j'ai entamé une formation, une post-formation dans le cadre des ressources humaines, puis j'y suis resté.
Mmh. Et vous avez fait votre carrière là-dedans, d'abord en Suisse allemande. C'était important d'être en Suisse allemande, peut-être loin des regards d'une société valaisanne.
Ça me sortait d'un contexte qui était beaucoup trop proche, beaucoup trop prenant. Mmh. Et il y avait une liberté et surtout une ouverture du côté de Zurich que j'ai trouvé assez exceptionnelle. Et Zurich qui m'a appris beaucoup de choses. D'une part, une approche positive des choses, factuelle, moins engoncée dans certaines théories, certains dogmes. Et puis d'autre part aussi, une approche un petit peu plus économique, le concret. On ne fait pas des cadeaux avec ce qui ne nous appartient pas n'importe comment.
Alors on va venir à cette question centrale qui est l'ouverture finalement de l'Église catholique à la nouveauté. Est-ce qu'à l'époque, si on vous avait dit, marie-toi, tu es fait pour ça, mais tu peux rester un guide pour la communauté, est-ce que vous auriez adhéré à cette notion de prêtre marié? Voilà.
C'est difficile.
C'est un peu difficile de s'en remettre.
C'est difficile parce que vous n'aviez pas ce choix. 40 ans. Exactement. Mmh. Le choix n'existait pas. Et canoniquement, encore aujourd'hui, il serait impossible. Parce que la théorie actuelle qui est avancée, des viri probati, on peut ordonner un homme marié, mais un homme qui se marie pendant la prêtrise, c'est pas encore tellement...
Pas.
En tout cas, il y a peu de bouquins qui vont jusqu'à cette ouverture. Mmh. Mis à part ce dont vous venez de parler, l'ouverture totale qui a été prônée il y a 2 jours à Bâle.
Alors, moi, j'ai fait quelques petites recherches modestes, mais enfin, il me semble que depuis longtemps, les papes s'expriment sur cette question, et il n'y a pas un pape, finalement, qui n'a pas, Vincent Lafargue, un jour ou l'autre, sur son bureau de prêtre de Rome, trouvé la question du célibat des prêtres et,
oui,
et n'est pas eu à réaffirmer, pour l'instant, hein, ils ont tous réaffirmé l'importance de cette notion.
L'importance, tout en ne la dogmatisant pas, hein. Ils n'ont jamais, le livre le dit bien, ils n'en ont jamais fait un dogme. Donc il y a une ouverture qui reste toujours possible. Ceci dit,
pardonnez-moi, mais on ne la voit pas, cette ouverture, hein, quand on est dans le siècle comme moi.
Alors, on ne la voit absolument pas, parce qu'effectivement, les médias ne nous la transmettent pas. Hein, ils nous transmettent ce qu'ils veulent bien nous transmettre de ce que Rome écrit. Mais si nous prenons par exemple l'évêque du Valais, Mgr Brunner, eh bien, il a régulièrement réaffirmé son intention d'ordonner un jour des hommes... d'ordonner prêtres des hommes mariés, des viri probati. Ce ne sont pas seulement des hommes mariés d'ailleurs. Dans viri probati, il y a l'expression probati. Ce sont des hommes mariés qui ont fait leur preuve, entre guillemets. C'est-à-dire avec un certain temps de mariage derrière. Ça serait ça l'idée. Et c'est pas non plus inintéressant quand on sait que le mot prêtre vient d'un mot grec qui veut dire l'ancien. Et dans ce sens-là, avoir un prêtre à 25 ans, il y a un petit peu une contradiction dans les termes. C'est aussi très intéressant de voir que dans le livre, tous les prêtres qui témoignent, qui ont quitté le ministère, ont été ordonnés avant 30 ans. Mmh. Et aujourd'hui, de plus en plus, on a des séminaristes et des prêtres qui sont ordonnés, hier encore, un ami à 44 ans, des séminaristes, des prêtres qui sont au-delà de 30 ans. On trouve moins ce problème avec des gens qui savent ce à quoi ils renoncent, qui connaissent ce à quoi ils renoncent, et qui ont vécu un petit peu avant. Autre chose aussi, concernant le célibat, est une erreur profonde qu'on voit dans les médias actuellement, c'est de lier la question du célibat des prêtres à la question de la crise des vocations. C'est une erreur profonde parce que, bien, le pasteur Mickaël qui nous écoute en témoignera aussi, la crise actuellement, notamment en Suisse romande, est encore plus forte chez les réformés que chez les catholiques, la crise des vocations. Or, les pasteurs peuvent se marier, ce qui prouve bien que ça n'est pas ça l'essentiel de la crise. Aujourd'hui, on assiste à une crise de l'engagement. Et on la retrouve dans le mariage, on la retrouve en politique. Il devient très difficile de trouver des gens qui s'engagent pour un conseil municipal. On la retrouve dans les associations, pour les bénévoles, etc. etc.
Bruno Mickaël, la crise dans la réforme.
Oui, alors moi je suis entièrement d'accord avec le père Lafarge, Vincent. C'est vrai que ce n'est pas le fait qu'on est marié que l'Église ira mieux. Ça c'est sûr. Moi je crois qu'il y a une crise profondément spirituelle, je dirais, dans nos institutions. Parce que quand vous relisez le livre des Actes et puis vous dites la première communauté, c'est le Seigneur qui adjoignait des nouveaux membres à la communauté. Et moi, je crois qu'il nous faut profondément maintenant non plus parler d'organisation, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut jouer de la guitare là, est-ce qu'on peut se marier ou pas se marier. Pour moi, il est grand temps de se dire que c'est dans l'esprit, dans la prière, que nous comprendrons ce qui se passe. Ce n'est pas une question d'organisation, de faire ceci ou de faire cela, mais dans la Bible, c'est toujours l'esprit qui a l'initiative, le Seigneur qui adjoint à l'Église des nouveaux membres. Et nous, si on dit, où sont les nouveaux membres? Il y en a, certes, sinon on ne serait plus là. Eh bien, on manquerait, on oublierait que c'est Dieu qui en prend l'initiative. Alors peut-être qu'ils sont ailleurs, ces nouveaux membres. Et j'aime bien ces premières communautés où ils allaient de maison en maison pour rompre le pain. Nous, on a fait des temples, on a fait des églises.
Vous avez demandé à ce qu'on vienne chez vous, c'est ça, hein?
Voilà, et puis j'aime à repenser cette arche de l'Alliance qui avait des bâtons de chaque côté pour la transporter. Et les ennuis ont peut-être commencé le jour où on a construit le temple de Jérusalem.
Retour.
Donc pour moi, c'est une église mobile et pas immobile. Déjà dans son mobilier, je dirais, les gens sont là, ils ont soif de spiritualité, mais de quelle façon nous, eh bien, il nous faut retrouver une arche de l'Alliance, c'est-à-dire une mobilité pour aller vers.
Alors, il nous reste malheureusement assez peu de temps, 2 minutes. Vincent Lafarge, moi j'aimerais terminer avec vous. C'est vrai que, voilà, on attend de l'Église des positions fortes et parfois même assez révolutionnaires. On les a d'ailleurs sur l'argent actuellement, sur le capitalisme.
On
les a eus sur des tas de questions. Et puis, c'est vrai que sur les questions morales, on n'a pas eu le temps d'évoquer l'homosexualité, l'ordination, je l'ai évoqué brièvement, mais enfin, l'entrée des femmes aussi au sacerdoce. C'est aujourd'hui une journée d'action des femmes dans toute la Suisse, là, le 14 juin, c'est l'anniversaire de la grève des femmes d'il y a 20 ans. Sur ces questions-là, on a l'impression d'une pesanteur absolument infinie, comme sur l'Église et la science, puisqu'il a fallu attendre Jean-Paul II pour réhabiliter complètement Galilée. Est-ce que ce sont des sujets qui n'avanceront jamais ?
Oh non, je crois qu'il ne faut jamais dire jamais, notamment dans ce domaine. Simplement, l'Église est une énorme machine. Il ne faut pas oublier que c'est quelque chose de mondial. Alors nous, bons petits Suisses, on arrive avec notre problème local, européen, disons-le, parce que c'est une question qui préoccupe un peu toutes les églises d'Europe. Mais la façon d'y répondre en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, va être complètement différente. Et Rome n'est pas un gouvernement de région ou national. Ce sont des gens qui essayent de fixer des règles, tant bien que mal, pour l'Église du monde entier. Et évidemment, vu comme ça, la question n'est pas si simple. C'est ce que dit très souvent Mgr Brunner lorsqu'on vient le voir avec une question comme celle-là. Eh bien, il dit, mais moi, je suis plus ou moins d'accord, ou voilà, ou avec vous ou pas, mais la question de l'Église mondiale est autre. Et ne vous étonnez pas si Rome décide peut-être légèrement autrement. Il lui faut beaucoup plus de temps pour réagir et pour s'adapter.
Alors voilà, ça crée une stabilité probablement qui dure depuis quelques siècles maintenant. Donc, je...